Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur RCJ sur 94.8, sur l'ensemble de la Radio Juive de France et sur internet radio rcj.info. Vous nous suivez également sur l'application RCJ à télécharger gratuitement sur Apple et Android et sur le DAB+, la radio numérique, 24 heures sur 24. Exactement 11h. Et on retrouve tout de suite l'information, le flash avec Margot Siffer. Margot, bonjour.
Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Des roquettes tirées depuis le Liban ont déclenché il y a quelques minutes des sirènes dans le centre d'Israël. Elles ont retenti dans la ville de Netanya et dans des dizaines de communautés environnantes. Tzal indique qu'une enquête est en cours. Une frappe de drone près de Binyamina a tué hier soir 4 soldats de 19 ans, Omri Tamari, Youssef Ayeb, Yoav Agmon et Alon Amita. 8 autres soldats ont été grièvement blessés. Le chef d'état-major de Tzal reconnaît qu'une attaque contre une base d'entraînement est difficile et douloureuse. Le Shin Bet et la police israélienne ont déjoué une nouvelle tentative iranienne d'attentat contre de hauts responsables israéliens. Deux résidents de Ramat Gan ont été arrêtés, un individu de 30 ans et sa compagne de 18 ans. Ils étaient en contact avec un agent iranien pour qui ils effectuaient plusieurs missions comme dissimuler de l'argent et incendier des véhicules. Et enfin en France, une minute de silence a été organisée ce matin dans les collèges et les lycées pour rendre hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes en 2020 et 2023 du terrorisme islamiste. Michel Barnier et Anne Jeuneté sont attendus cet après-midi au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine qui va prendre le nom de Samuel Paty.
Merci Margot, il est 11h02. On vous retrouve avec Elsa Parient, Laurence Goldman et toute la rédaction à 12h au menu du journal.
Eh bien, on reviendra avec nos correspondantes Cathy Bisraor et Emmanuel Ada sur la frappe de drone hier près de Binyamina qui a donc fait 4 morts et plus de 60 blessés. On parlera également avec le président du Bet Haverim de l'agression antisémite et homophobe d'un jeune homme de 22 ans mardi dernier à Pantin. Le journaliste Michael Darmon sera également avec nous. Il reviendra sur l'assassinat il y a donc un an hier, jour pour jour, de Dominique Bernard, le tout sans oublier la chronique livre de Josiane Savigno, la chronique spectacle culte d'Amélie Blochstein-Nidam et l'histoire du jour avec Jérôme Attal. Voilà Sandrine pour ce midi.
Quel programme, merci Margot. À tout à l'heure, dans quelques instants, en fin d'émission, 11h40, je recevrai Catherine Sova pour son livre « Ils sont elles », histoire extraordinaire d'écrivaines qui ont choisi des noms d'hommes. Il n'y a pas que George Sand, vous verrez, il y en a beaucoup d'autres. Et puis en première partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir le producteur et éditeur Marc Lombroso. Il a travaillé avec les plus grands, avec Jean-Jacques Goldman, avec Vanessa Paradis, avec MC Solar, avec Keren Ahn, avec Raphaël, avec Christine and the Queens. Mais je crois qu'il ne faut plus l'appeler comme ça maintenant. On va parler avec lui de sa carrière et de musique et de la musique aujourd'hui, de la chanson française dans un instant. À tout de suite.
Cette rentrée 5785, nous nous devons d'être forts, unis et solidaires.
Forts pour protéger les plus fragiles et soutenir notre jeunesse. Unis pour porter les valeurs et l'engagement de notre communauté. Solidaires pour financer les actions sociales et humanitaires en France et en Israël.
Nous formulons tous nos vœux de paix et de solidarité. Accompagner, nourrir, protéger, héberger seront nos actions cette année encore pour 5785.
Restons forts, unis et solidaires. Donnez maintenant sur fsju.org, fsju.org.
Le FSJU et toutes ses équipes vous souhaitent Shana Tova.
Durant les fêtes de Tishri, alors que nous nous réunissons pour une longue période de célébration, le Magen David Adom veille sur tous les Israéliens. Jour et nuit, les équipes du MDA sont prêtes à intervenir pour protéger ceux qui comptent le plus, la vie. Le MDA vous souhaite que chaque instant partagé avec vos proches soit rempli de joie. Shana Tova Umetuka. Faites un don au MDA France.
MDA-France.org.
MDA-France.org. MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
Merci d'être avec nous sur RCJ. Marc Lombroso, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait longtemps que je voulais faire une émission avec vous, Marc. Et voilà. Et puis parfois, on est pressé par l'actualité. Et là, je me suis dit, mince, ça fait tellement longtemps que qu'on a envie de parler de vous, de votre carrière, de ce que vous avez découvert, Marc Lombroso, que j'ai dit ce matin. On prend le temps. Donc, merci d'être avec nous sur RCJ.
Merci de l'invitation.
Marc Lombroso, vous êtes éditeur de musique, producteur de musique. On va en parler parce que vous avez découvert les plus grandes de ce métier en chanson française et notamment un certain Jean-Jacques Goldman notamment. Mais avant qu'on parle de cette carrière et de la musique aujourd'hui, de la chanson française aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur vos débuts. Famille juive de Tunisie. Tunis même. Ah voilà, la fameuse Tunis même. Il y avait de la musique déjà, Marc, dans la famille.
Dans la famille, il y avait mon père qui était très amateur de chansons, etc. Mais la musique était chez moi, j'étais à la maison. Et moi, j'ai grandi avec la musique. Je faisais de la musique avec des copains. On avait un groupe. J'ai acheté une guitare juste avec l'argent que m'avait donné ma grand-mère, ma bar mitzvah.
Mais alors, vous écoutiez quoi comme musique à l'époque?
On écoutait essentiellement la radio.
Ouais.
Il y avait Radio Tunis, il y avait une émission qui s'appelait Le Concert des Auditeurs à l'heure du déjeuner, avec des gens qui dédicassaient des chansons. Donc il y avait toutes sortes de chansons. Il y avait une grosse communauté italienne aussi en Tunisie. Donc il y avait beaucoup de chansons italiennes, beaucoup de chansons françaises surtout. Et c'était que ça, des chansons italiennes et des chansons françaises. Et puis des chansons aussi anglo-saxonnes, bien sûr, mais moins. On écoutait tout ce qui marchait, quoi. Ça allait, maintenant les noms qui me reviennent, à l'époque il y a eu Lenny Escudero, à un moment donné, qu'on entendait énormément. Il y avait évidemment Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, enfin les Chaussettes Noires,
ouais,
voilà tout ce qui marchait,
année, oui. Voilà, la branche des yéyés et après le rock. Vous êtes arrivé en France à quel âge?
À 15 ans.
Par les événements de Tunisie ou parce que vos parents avaient envie de venir en France?
Parce que l'immense majorité de la famille de ma mère était déjà partie et que ma mère, elle voulait les rejoindre, voilà. Et que déjà pas mal de juifs tunisiens étaient déjà partis.
Oui, étaient déjà arrivés en France. Alors vous avez commencé par faire du droit, c'est parce que vous ne vouliez pas faire médecine ou parce qu'il fallait bien faire quelque chose, mais est-ce que la musique était déjà... Oui, la musique était déjà là.
Non, la musique était plus que présente. Je voulais faire que de la musique depuis une éternité. C'était mon choix, c'était ma vie. Le droit, je l'ai fait sans y croire une seconde. Quand je suis rentré à la fac à Nanterre, j'étais assis à côté d'un autre étudiant à qui on s'est présenté. Je lui ai dit, oui, regarde-moi bien si tu veux, parce que moi, tu ne vas pas me voir très longtemps dès que je peux trouver. Et en fait, j'avais la chance par une chance terrible, et en même temps, j'étais le meilleur ami d'un garçon qui s'appelait Franck Boublil, qui était le frère d'Alain Boublil.
Oui.
Et Franck était mon meilleur ami, on écoutait la musique ensemble en Tunisie, on ne cessait pas d'écouter la musique ensemble, que son frère nous envoyait, parce qu'on avait passé 10 qu'on recevait en Tunisie. et son frère nous avait dit, un jour, quand vous aurez fait vos études, je vous engagerai tous les deux. Franck, malheureusement, est décédé, très jeune, Et je suis allé voir son frère et m'engager immédiatement à la Moublil.
Il a tenu sa promesse. Alors, il vous a engagé où au début ?
Il m'a engagé, il travaillait aux éditions Vogue. Et il avait ses propres éditions qui s'appelaient les éditions Babou. Donc moi, j'étais employé aux éditions Babou. Et mon métier, c'était de travailler avec des auteurs et des compositeurs et d'aller faire le tour de Paris des directeurs artistiques pour ce qu'on appelle placer
les chansons. Placer les chansons, voilà. À la radio. Voilà. Alors, on va expliquer peut-être, parce qu'il y a des jeunes qui ont envie de, qui sont passionnés par ces métiers. C'est quoi la différence entre un éditeur et un producteur? Parce que vous, vous faites et vous avez fait les deux.
Oui. Alors, l'éditeur, principalement, il ne travaille qu'avec des auteurs et des compositeurs. Mmh. Donc, son métier, c'est de les gérer, de les aider. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'artistes interprètes. Donc, ils n'écrivaient pas et il fallait leur y chercher des chansons en permanence pour leur prochain enregistrement, etc. Donc, les compositeurs, il fallait être au courant. Donc, l'éditeur est au courant de qui cherche et qui cherche quoi, dans quel style, etc. Ouais. Donc, c'est les relations avec les directeurs artistiques dans les diverses maisons de disques, etc. Et puis, ensuite, briefer les auteurs et les compositeurs pour qu'ils fassent des chansons sur mesure. Ou pas d'ailleurs, selon leur inspiration.
Ou l'inverse, trouver voilà, à et partir de textes. C'est un mariage en fait, c'est un arrangeur de certains mariages.
Oui, c'est ça. Oui. C'est séduire en tout cas un interprète par quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de chanter, par un thème qui lui tient à cœur, etc. Voilà. Donc et c'est un travail qui est très intéressant parce que moi ça m'a permis en même temps d'aller passer mon temps dans les maisons de disques et de comprendre comment ça fonctionnait.
Mais oui. Ouais. Alors, vous avez travaillé aussi dans plusieurs maisons de disques. Vous avez créé votre propre label. Vous avez dirigé Polydor pendant plusieurs années. Puis, vous avez été le président d'IMAI France. On parlera des maisons de disques aujourd'hui en 2024, parce que bien évidemment, ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était il y a quelques années. Et l'un de ceux que vous avez publié et que vous avez découvert, c'est un certain Jean-Jacques Goldman. Comment s'est fait la rencontre avec Jean-Jacques ?
La rencontre avec Jean-Jacques, elle s'est faite complètement par miracle, on peut dire.
En fait, tout ce qui touche à Jean-Jacques Goldman est du miracle.
Et c'est que, en fait, un jour, un samedi après-midi, j'écoute la télé, je regarde la télé, et il y a une émission présentée par Denis Favre avec des jeunes chanteurs qui viennent faire une sorte de concours comme ça. Et j'écoute une chanson qui me plaît énormément, qui s'appelle Gros Câlin Blues. Ouais. Je note, j'attends le déroulé du générique pour voir qui l'avait écrite. Je trouve le nom de Jean-Jacques Goldman. Et je ne sais pas comment faire pour le joindre, parce que la SACEM ne donne pas les coordonnées, etc., des auteurs-compositeurs. Et j'avais un tout petit bureau à l'époque, qui était en même temps débarras chez Warner Edition. Et je rentre dans le bureau le lundi matin, c'était vraiment un miracle. Hein. Oui. Le lundi matin, la première chose que je vois par terre, c'est un disque de Jean-Jacques Goldman.
Wow. Et c'était avant Taifong ou c'était la même,
c'était
la même époque ?
C'était après. Mais en fait, donc j'ai essayé de trouver ses coordonnées. La secrétaire m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai appelé.
On vous parle d'un temps où les téléphones étaient fixes, hein.
Oui, c'est ça. Et donc on se rencontre. Je lui dis un peu que moi je suis un placeur de chansons, si on disait à l'époque. Et Jean-Jacques me fait écouter des chansons. Ça me plaît beaucoup. Et vous me parlez de Taifong. Ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, je dis à Jean-Jacques. Là, on travaille depuis un petit moment déjà. Je dis, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait jusque-là ? Et il me dit, rien.
Rien ?
Il ne voulait pas que je sache.
Il ne voulait pas que j'aie des préconçus. Ah, il était magnifique, Sister Jane.
Voilà, il ne voulait pas que j'aie des préconçus sur ce qu'il avait fait avant, etc. Il voulait qu'on prenne les choses à zéro tous les deux ensemble. Mmh. Voilà. Et donc, on a travaillé ensemble, d'arrache-pied, oui. Ouais.
Donc, c'était avant Il te suffira d'un signe.
Ah oui, c'était 2 ans avant. Oui.
2 ans avant. Quand il vous amène, Jean-Jacques Goldman, Il suffira d'un signe, qui vous amène après ces chansons-là. Vous êtes un tout jeune producteur aussi, éditeur. Est-ce que tout de suite vous vous dites, ce garçon est un génie et ça va marcher, ou est-ce qu'on n'est jamais vraiment complètement sûr ?
Alors, moi j'ai pas attendu Il suffira d'un signe. Moi, j'ai travaillé avec Jean-Jacques pour essayer de trouver des interprètes à ses chansons, parce que c'était ça mon travail à l'époque. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, moi, j'adorais ses chansons.
Oui.
Je n'avais jamais autant aimé les chansons d'un auteur et d'un compositeur avec lequel je travaillais. Donc, je me suis battu comme un fou. J'en ai placé 2 misérables sur 2 disques qui ne sont pas marchés, bien sûr. Et en fait, j'ai insisté pour que Jean-Jacques chante. Parce que je trouve qu'à cette époque, moi, je n'avais pas un rond. Je vivais dans un studio d'enregistrement, Jean-Jacques le savait. Et Et je me suis dit, c'est la seule façon, quoi, parce que sinon, les chansons...
Oui, chante-les, quoi, vas-y.
Voilà, chante-les, il était pas très chaud, et puis j'ai insisté, et donc Jean-Jacques m'a dit, bon, bah, écoute, d'accord, tu fais le tour des maisons de disques, mais voilà, moi, tu m'emmènes pas dans les maisons de disques pour dire, regardez comme il est sympathique, etc., donc tu te débrouilles, et c'est ce que j'ai fait, mais ça a pris beaucoup de temps, parce que personne n'en voulait de Jean-Jacques, voilà.
Ça, c'est assez incroyable. Alors, quand il y a ces premières chansons et que ça commence effectivement à démarrer, vous dites, bon, bah, j'ai bien fait d'insister, il a bien fait de chanter. Il a reconnu quand même qu'il a bien fait de chanter lui-même.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Moi, franchement, je n'ai jamais eu un doute. Voilà. J'ai écouté ça. C'était le seul compositeur avec lequel je travaillais, dont j'écoutais les chansons dans ma voiture, à la maison. J'adorais ce qu'il faisait. Il écrivait des chansons très rapidement quand je leur demandais une pour un interprète ou pour un autre. Et j'étais fasciné par, d'une part, la simplicité avec laquelle on avait notre relation. Et parce que notre relation était basée aussi beaucoup sur, on se fréquentait, on n'habitait pas très loin l'un de l'autre, etc. Et puis, on
travaillait sérieusement. Vous démarriez aussi finalement ensemble.
Ouais, mais en même temps,
hein,
voilà, notre truc, c'était travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, quoi. Ouais. Voilà.
Ce qui a été après aussi sa longue carrière. Mais même si vous saviez que ça allait marcher, Marc Lombroso, que vous n'aviez aucun doute, on ne pouvait pas imaginer non plus que ce serait à ce moment-là des dizaines d'albums, des centaines de tubes, le numéro 1 français. Ça fait malheureusement, Jean-Jacques, si vous écoutez cette émission, c'est malheureusement quoi, 15 ans qu'il est plus sur scène. Et c'est toujours le numéro 1 dans le cœur des Français, dans les radios, dans ce qu'on réécoute. On ne pouvait quand même pas imaginer que ce serait à ce point-là.
Non, jamais. Non, c'est impensable, de toute façon. Ouais. Que 20 ans après qu'il a arrêté de chanter, que ça existe encore, qu'il soit l'artiste préféré des Français. C'est drôle, d'ailleurs, parce que la première fois qu'il a été dans ce classement...
Oui, le fameux classement du JDD.
Oui, où il y avait lui, numéro 1, je crois, deux, Omar Sy, et troisième, c'était... comment il s'appelle le comique
Danny Boone, Gad Elmaleh. Non, je sais plus.
Non. Ouais. Non, c'était pas Danny Boone. C'était un musulman. Très sympathique d'ailleurs.
Jamel Debbouze.
Jamel Debbouze. Et Jean-Jacques, j'avais appelé. Je lui dis, oh là là, t'as vu ça? Il me dit, bah, t'as vu, ça prouve bien qu'il y a.
La France n'est pas raciste.
Les Français sont pas racistes.
Un juif, un noir, un musulman. Voilà. On a déjà eu la chance d'interviewer plusieurs fois Jean-Jacques Goldman. Et j'ai de temps en temps la chance de pouvoir échanger aussi avec lui hors antenne cette identité juive. Lui ashkénaze, vous tunisien, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein, comme on dit. Je vous taquine, c'est quelque chose qui vous liait aussi.
Sans doute, oui, sans doute, mais sans en parler réellement. Jean-Jacques, il était assez loin de ça, franchement. Hein, c'était mon témoin à mon mariage à la synagogue de la rue Copernic. C'est la première fois de sa vie qu'il est rentré dans une synagogue.
Ouais.
C'est ce qu'il m'a dit. Et ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que quand il est venu pour signer le document là, le rabbin Williams à l'époque le regarde comme ça et puis lui dit, mais vous êtes juif vous d'abord. Et Jean-Jacques il blanchit. Je dis, oui, vous avez vu la tête qu'il a.
Oui, on vous confirme. Et vu certaines chansons aussi, clairement. Vous avez travaillé avec lui sur quel album, jusqu'à quel tube?
J'ai travaillé avec lui du premier album jusqu'au dernier qu'on a fait ensemble, c'était le double album Entre Gris Clair et Gris Foncé.
Voilà. Magnifique.
Après, moi, je ne pouvais plus travailler avec lui parce que je tire en même temps président de Polydor France.
Ouais.
Et c'était impossible de faire les deux, quoi.
Oui, ouais. Ça, c'est clair. Quand vous avez écouté pour la première fois certaines des chansons de Jean-Jacques Goldman, on va écouter dans quelques instants Encore un matin, mais je pense évidemment à Comme toi. Quand on écoute comme ça certaines chansons et qu'on a le privilège d'être les premiers à découvrir des chefs-d'œuvre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il s'en rendait compte, lui? Est-ce que vous lui disiez tout de suite? Et est-ce que parfois vous avez écouté une chanson de Jean-Jacques Goldman qui était loupée?
Comme toi, ça a toujours été une chanson que j'aimais énormément et j'insistais beaucoup auprès de Jean-Jacques pour que CBS à l'époque la sorte en single.
Ouais.
Et oui, c'était la chanson elle-même et le thème, quoi, les deux. Mais des chansons quoi qui ont marché que j'ai pas aimé, vous voulez dire?
Oui, non, ou des chansons qu'il vous a proposées et où vous lui avez dit non, celle-là elle est pas terrible, ça existe pas.
Ah ben oui, ça a dû exister.
Ça a dû exister quand
oui,
même.
Oui, oui. Mais pas dans les chansons qu'on a enregistrées, dans les ouais. chansons qu'on n'a pas enregistrées, quoi. Alors il y a beaucoup de chansons que je connaissais avant quand j'essayais de placer ces chansons à des interprètes, et que lui n'a jamais enregistré, mais qu'ensuite ont été interprétées par d'autres, par Johnny Hallyday, par d'autres, etc.
Par Céline Dion, ensuite.
Voilà. Et pour la plupart, d'ailleurs, des chansons que moi, j'avais fait écouter à ces mêmes artistes quelques années avant, personne n'en voulait, quoi.
Bah, forcément, entre-temps, c'était Jean-Jacques Goldman, donc
voilà,
ils pleuraient tous pour avoir une chanson de Jean-Jacques Goldman.
C'était une marque, oui.
Ça, c'est clair, et sacrée marque. On va écouter tout de suite Jean-Jacques Goldman, encore un matin. Là, vous travaillez avec lui, hein, sur cette chanson, sacrée chanson. On se retrouve juste après avec mon invité ce matin, Marc Lombroso. Encore un matin, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques, revenez. Marc Lombroso, qui est vous qui avez été son producteur et qui êtes son ami. Ça sert à quelque chose que je le dise ou pas? Je continue, c'est pas grave.
Oui, vous pouvez toujours continuer. Oui, bien sûr. Non.
Merci.
C'est sûr que ça lui fait plaisir.
Je sais que ça lui fait plaisir. Enfin, oui, je sais que ça lui fait plaisir, bien sûr. Bon. À qui ça ne ferait pas plaisir qu'on dise qu'il nous manque qu'il nous manque et qu'on l'aime et qu'on veut le retrouver sur scène. C'est pas possible de se dire que nos gamins ne verront jamais Jean-Jacques Goldman sur scène. Vous voyez ce que je veux dire?
Nous, vous et moi, on a eu
la chance de le voir. Je me dis, c'est pas possible qu'il ne puisse pas le connaître sur scène. Bon, voilà, le message est passé.
Voilà.
Alors, il y a Jean-Jacques Goldman, évidemment, dans votre carrière, Marc Lombroso, et c'est pas rien, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Il y a Maxime Le Forestier, il y a Patricia Cass, il y a MC Solar, il y a Keren Ann, il y a Raphaël, il y a Christine Anne de Queen, mais qui s'appelle maintenant Rami Redcar, je crois. Et il y a Vanessa Paradis. Vous voulez bien qu'on parle un petit peu de Vanessa Paradis? De quel moment vous avez travaillé avec elle dans sa carrière?
Vanessa, j'étais directeur artistique chez Polydor pendant quelques mois déjà, parce qu'au départ, on m'a proposé le job. Et comme Jean-Jacques, ça ne me prenait pas toute mon année, quoi. On enregistrait pendant 3 mois, et puis ensuite, le reste du temps. Donc, le président de CBS qui travaillait avec Jean-Jacques avait été passé dans une autre maison de disques chez Polygram. Il m'a proposé, sur les conseils de Jean-Jacques d'ailleurs, de devenir le directeur artistique chez Polydor. J'ai accepté. Il m'a demandé un jour de devenir président de Polydor, et le jour où il me l'a demandé, je reçois l'oncle de Vanessa qui me fait écouter Joe le Taxi. Je lui dis, ça me plaît, mais je voudrais revoir l'artiste, parce qu'il me dit qu'elle a 14 ans et demi. Et le lundi, entre-temps, j'avais changé de bureau, j'étais devenu président.
Il revient. Sympa, du coup, on revenait dans le bureau du président.
Il revient avec elle, et puis je vois Vanessa, et puis je dis, voilà, je lui vois qu'elle était parfaite. C'est pas une artiste manipulée par des adultes, etc. Oui. Qu'elle était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait, qu'elle avait. Et je la signe.
Voilà, et qu'elle avait envie de le faire.
Ça s'est fait très vite. Et j'ai appris après, mais ça c'est mon histoire à moi, 90% des artistes que j'ai signés qui ont le plus le marché, personne n'en voulait de Vanessa.
Voilà. Personne n'en voulait de Vanessa.
Non.
Malgré son timbre de voix, la chanson qui voilà, dont on sait tout de suite que c'est un tube, sa beauté, sa fraîcheur.
Je n'en sais rien. Je pense que les gens c'était, ah oui, mais c'est une enfant, etc. On va avoir des problèmes.
Et pourtant, en même temps, alors j'en parle d'autant plus facilement que c'est ma génération, et que les deux en même temps, effectivement, sont sortis, et Vanessa Paradis et Elsa.
Oui.
Et souvent, on était team, hein, je ne vous cache pas, voilà, au collège, au lycée, on m'a dit, il y avait celle qui aimait Vanessa Paradis, celle qui aimait Elsa, celle qui aimait les deux, mais aussi tout un début de jeunes chanteuses comme ça. MC Solar.
MC Solar, alors MC Solar, c'est pas moi directement en fait, ça m'a été amené par un garçon qui travaillait avec moi et qui est toujours dans la musique, qui s'appelle Philippe Ascoli, qui est également juif tunisien.
Ah, la porte des juifs tunisiens à la musique française, j'ai bien compris.
Et c'est Philippe qui m'avait amené MC Solar, voilà. Donc on l'a signé très très vite aussi.
Vous en avez signé combien des artistes comme ça entre vos différents postes?
Non, jamais compté.
Vous n'avez pas compté, d'accord. Quand on compte, on n'aime pas. Toujours dans la chanson française.
Chanson française, par un moment donné, j'ai travaillé en Angleterre quand même, j'ai dirigé Polydor Londres.
Ouais.
Donc là, je signais des artistes anglo-saxons, bien sûr, et pas toujours de la chanson française. J'avais signé, par exemple, aussi chez Polydor, c'est un enregistrement, c'était pas vraiment un artiste, c'était un enregistrement pareil, dont personne ne voulait. Il avait fait le tour de Paris, parce que tout le monde disait, oui, mais il a fait trop de Ray Charles, il a fait un duo avec Didi Bridgewater.
Je me rappelle très bien de ce duo,
cette chanson était magnifique. Et ça, voilà, j'ai signé ça à Ray Charles aussi.
C'est pas mal.
Ouais, ouais. J'avais signé aussi un autre artiste quand j'avais mon label Remarque, mais qui n'est pas très connu, mais enfin qui l'était à l'époque, quand il est connu par les spécialistes, Tony Joe White. Mm-hmm. J'ai signé des artistes anglo-saxons aussi.
Aujourd'hui, Marc Lombroso, on n'est plus du tout dans le même univers de la suprématie des majors, comme on a appelé des maisons de disques il y a quelques années. Il y a des artistes qui se produisent eux-mêmes. Il y a évidemment l'avènement des plateformes d'écoute qui a complètement vraiment modifié le rapport aussi des chansons, des artistes, des producteurs, qui a complètement modifié tout ce monde.
Voilà, tout ce qu'il y a. Il y a tout un ensemble de choses qui sont arrivées parallèlement. C'est un, les artistes pour la plupart maintenant peuvent enregistrer des chansons ou des morceaux quoi chez eux, plus besoin tellement d'aller dans un studio. Pour faire un clip, on n'a plus besoin aussi d'avoir une équipe et de payer 10 000 euros. Il y a certains, en particulier la musique urbaine, ils font ça avec un téléphone et ça passe très bien aussi. Donc ils enregistrent chez eux, ils font les clips eux-mêmes. Donc ils n'ont pas besoin vraiment des investissements d'une maison de disques, parce qu'il n'y a plus exactement de promotion traditionnelle d'aller dans les radios, etc. Parce que les radios aujourd'hui, elle mesure l'impact des artistes ou des chansons qu'ils sortent, des titres qui sortent sur les Spotify, Deezer, etc.
Certaines radios, hein, on continue à diffuser ce qui vous plaît.
Non, c'est vrai. Mais les grosses radios populaires, c'est ça. Et donc, les artistes se produisent eux-mêmes, et ce qui fait que beaucoup de maisons de disques aujourd'hui sont sur le modèle qui était le modèle de départ de Believe, qui fait que de la distribution. Et pas de marketing, de promotion, ou éventuellement, oui, mais les artistes sont propriétaires de leurs enregistrements, et c'est la même chose maintenant en Angleterre, aux États-Unis.
Est-ce que c'est plus facile, du coup, pour les jeunes artistes, parce qu'ils ont la possibilité, effectivement, que leurs chansons soient connues sans avoir une maison de disques qui va leur dire oui ou non, ou est-ce que c'est aussi plus compliqué parce que, du coup, l'offre, elle est complètement pléthorique?
Voilà, ce qui est plus facile, c'est d'exister sur les plateformes. Mais ensuite, il faut être écouté. Ouais. Donc, il faut faire une espèce de promotion. Donc, les artistes nouveaux, etc., surtout dans l'urbain, mais pas seulement, font énormément de promos eux-mêmes sur TikTok, sur Instagram, etc., éventuellement sur Facebook, même si ce n'est pas les mêmes générations. Ouais. Et c'est à coup de messages comme ça, qui sont plus ou moins... plus ils sont bien faits, plus ils sont sympathiques, plus ils disent quelque chose, etc. Et plus ils vont être entourés d'une fanbase plus importante. Et leurs streams vont monter. Et c'est à ce moment-là, sans doute, que les maisons disent vont vouloir les sortir et les exploiter sur leur plateforme, sur leur réseau. Voilà.
Mais ce qui est dingue, c'est que, on est d'accord, vous et moi, on n'en a peut-être pas de nom, mais vous pouvez avoir des chansons qui vont être écoutées, téléchargées des centaines de milliers de fois, c'est pas pour autant qu'elles sont bonnes.
C'est pas pour ça qu'elles vous plaisent, en tout cas.
Oui, c'est vrai. Il faut un public pour chacun, ce que vous êtes en train de me dire. Je comprends bien. Il faut effectivement un public pour chacun. Vous avez écrit des chansons vous-même, Marc Lombroso, ou alors chacun son métier?
Il m'est arrivé pour rire d'écrire des chansons.
Ouais. Et alors, vous les avez proposées? Je connais un bon éditeur.
Non. Quand j'ai démarré comme éditeur avec des compositeurs avec lesquels j'ai travaillé, pour rire, j'ai fait 2-3 chansons. Ça n'a pas été des gros succès. Hein,
voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave, vous en avez eu d'autres. Christine and the Queens, qui donc s'appelle maintenant Rami Redcar, je crois, aux dernières nouvelles. Comment vous l'avez découverte?
Alors, c'est ma fille qui l'a découverte. Là aussi, c'est un petit peu miraculeux parce que ma fille avait signé à une artiste qui était sur une plateforme qui n'existe plus maintenant, qui recevait les morceaux, les sons d'artistes qui voulaient se faire connaître.
Ouais.
Et elle avait signé à une artiste qui était dans les 10 premiers. Et puis, il y avait des commentaires. Elle a vu le commentaire d'une artiste, d'autre artiste qui disait « j'aime beaucoup ». Elle est allée voir ce que c'était cet autre artiste qui était classé sur 100 70e ou 75e, et c'était Christiane de Queens. Elle a écouté, elle a adoré, et elle a travaillé avec elle. Et puis ensuite, on a mis énormément de temps pour essayer de trouver un label intéressé, et personne n'en voulait. Parce que tout le monde pensait que ça ne marcherait jamais.
Ouais.
Et puis voilà, ensuite le résultat.
On voit le résultat.
Non seulement ça a marché, mais ça a été un succès planétaire, quoi.
Vous avez compté finalement avec le nombre d'artistes que vous avez produits ou édités, le nombre de millions de disques vendus?
Non.
Ça se compte pas.
J'en sais rien.
Bon, déjà juste avec Jean-Jacques Goldman, puis j'ai dit Maxime Le Forestier, puis d'autres. Morane aussi, la regrettée Morane, quel talent aussi cette énorme talent. Kerenan, Raphaël qu'on va écouter dans quelques instants. Raphaël, vous avez travaillé avec lui à quel moment? Au moment de Caravane?
Raphaël, avant ça.
Avant. Ouais.
En fait, je dirigeais EMI France. J'avais signé comme artiste et puis on a travaillé aussi en tant qu'éditeur pour ces enregistrements, et le premier album n'a pas vraiment marché, et sur le deuxième avec Caravane
avait sacrément cartonné. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui, Marc Lombroso? On a parlé évidemment des plateformes d'écoute et de la manière dont les artistes pouvaient se vendre différemment, mais est-ce qu'il y a une si grande différence entre l'écriture d'une chanson aujourd'hui en 2024 et l'écriture d'une chanson quand vous avez démarré ou quand vous avez commencé avec Jean-Jacques Goldman les premières chansons?
Non, il y a une différence Il y a des catégories qui sont différentes, quoi. Ouais. Il y a les artistes, quand le rap est arrivé en France, bon, eh ben, au départ, on pensait que c'était un mouvement qui était parallèle, qui durerait pas forcément. Ouais. Et puis, il a pris une place colossale, mais ça n'empêche pas d'autres artistes qui existent à côté et qui continuent d'exister. Au sommet du top album, il y a quelques semaines, c'était Pierre Garnier qui fait de la chanson de variété, si on peut dire. Il y a eu Zao Zagazan qui fait de la chanson traditionnelle aussi. Donc, les deux genres cohabitent aujourd'hui, même si la musique urbaine est largement majoritaire en termes de single, etc. Donc, si vous voyez aujourd'hui le top single, c'est-à-dire, bon, c'est plus ou moins diffusé, quoi. Mais c'est mesuré sur les streams. Donc là, c'est pratiquement que du rap. Et sur les albums, c'est beaucoup, par contre, des achats, etc. Donc là, c'est aussi il y a du rap, mais il y a aussi beaucoup de chansons françaises et de variétés.
Ça a beaucoup changé, évidemment, les habitudes d'écoute, les streamings. On sait que le marché du disque, on a souffert, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on, voilà, on pourrait pas faire autrement.
Mais non, bien sûr. Oui, si par exemple, vous allez, il y a quelque chose qui est frappant, vous allez à New York, qui était avant la ville de la musique, etc. Il n'y a plus un magasin de disques à New York.
Voilà. Il n'y a plus un magasin de disques.
Terminé. Ouais. Non seulement il n'y a plus un magasin de disques.
Alors ça revient aussi en France sur certains, dans les antiquités, les trucs vintage, les albums, les précédents.
Mais oui, non, mais c'est fou
tours,
parce qu'on est tellement dans le digital, en fait, en tout. Parce que la dernière fois que j'étais à New York, je voulais acheter le quotidien New York Times. Il n'y a plus un marchand de journaux.
Ça, c'est triste, par contre. Ouais.
C'est terrible, j'en ai pas trouvé un seul. Et mes copains new-yorkais m'ont dit, ah ben non, c'est terminé, plus personne.
Parce que nous, on a les objets. Moi, mon 33 tours de l'album de Jean-Jacques Goldman, dédicacé par Jean-Jacques, il trône dans ma chambre.
Moi, je lis la presse. J'aime bien tourner les pages.
Vous avez raison, c'est très clair. Est-ce qu'il y a, Mac Lombroso, un artiste dans votre carrière que vous n'avez pas édité au produit, vous dites, ah mince, lui, j'aurais bien aimé travailler avec lui? Ou vivant ou décédé, hein.
Cabrel.
Écoutez, Francis, si vous nous écoutez, Cabrel, ouais. C'est un vrai orfèvre aussi, de la chanson française.
Pour moi, c'est un très très grand. Aussi bien comme auteur, comme compositeur, que la finesse de ce qu'il fait, la façon qu'il a de chanter, enfin les chansons, j'aime beaucoup ça.
Et la manière dont il raconte une histoire à chaque fois en chanson. Bon, du coup, c'est moi qui ai plus de voix. Si vous voulez être obligé de chanter pour terminer l'émission. Merci beaucoup, Marc Lombroso, d'être venu nous voir. Vous redites à Jean-Jacques à quel point... Oui, vous lui redites à quel point on l'aime.
D'accord. Mais peut-être avoir le courage à revenir.
Je pense. Non, j'y crois pas. Mais enfin, qu'est-ce que je perds, rien. Merci beaucoup, Marc Lombroso. Chanatova, à vous. Merci d'avoir partagé ces quelques moments avec nous. Vous revenez quand vous voulez, avec Jean-Jacques ou sans Jean-Jacques. Et on va marquer, c'est Raphaël avec Caravane qu'on retrouve tout de suite sur RCJ.
Merci.
J'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proche de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, et c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane,
traîner dans cette cavale. Et nous partons, allez, viens.
Seconde invitée d'Essentiel ce matin, Catherine Sauva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, alors il faut que je dise auteur, autrice ou écrivain ou écrivaine.
On ne sait plus quoi dire.
Mais... On ne sait plus quoi dire, mais c'est pourtant au cœur de votre livre qui est extrêmement intéressant. Il au pluriel, son, elle au pluriel. Ça vient de paraître chez Flammarion, histoire extraordinaire d'écrivaines qui ont choisi des noms d'hommes. Vous avez écrit plusieurs biographies avant ça, Catherine Sauva, notamment celle de Stéphane Zweig. J'y Zweig parce que c'est un de ceux qu'on préfère ici, vous en avez écrit plein d'autres. Vous êtes aussi co-autrice de documentaires. Et là, vous vous êtes penchée sur, je ne sais plus combien, une trentaine, quarantaine.
Une quarantaine.
Oui, une quarantaine de destins, de carrières de femmes qui ont choisi des noms d'hommes. Pourquoi cet angle tout à fait particulier et original ?
Mais c'est parce que j'ai, à un moment donné, j'ai réalisé, en travaillant justement sur des biographies, qu'à chaque fois, je tombais sur des personnages de femmes assez incroyables. Je me disais, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas ? C'est quand même curieux. Et puis quand j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre d'elles qui. Enfin, c'est toujours un jeu de piste, vous voyez. Et quand j'ai remarqué que donc, certaines avaient des pseudonymes d'hommes, bon, la première qu'on connaît tous,
George Sand,
évidemment. On commence à se demander un peu pourquoi elle n'est pas revenue après à son premier nom. Il y a George Eliot, enfin dans les certaines qui sont très très connues. Et je me suis demandé si ça avait pas, si ça, voilà, s'il n'y avait pas quelque chose là à tirer et vers une réflexion sur la raison en tous les cas. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'elles avaient choisi ces pseudonymes ? Et puis, quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte, là j'en ai une quarantaine, je précise bien que ce n'est pas exhaustif parce qu'il y en a certainement peut-être 80 ou
oui,
même
oui,
plus. Hein, et puis alors j'ai aussi moi mes limites culturelles, on va dire, je n'ai peut-être pas, voilà, je ne suis pas allée voir du côté de la littérature asiatique ou quoi que ce soit.
Non, mais alors vous avez la France, l'Angleterre, voilà, donc on va dire les principales, certaines qu'on connaît, évidemment, d'autres qu'on ne connaissait pas. Et d'autres à côté de qui, moi je l'ai passé complètement à côté, notamment, on parlera de Frankenstein tout à l'heure, mais vous dites dans l'avant-propos, vous dites la récente initiative d'un prix littéraire anglais a surpris. Il s'agissait de republier dans une collection intitulée Reclaim a Name, 25 autrices sous leur vrai pseudonyme. George Eliot est donc redevenu Marianne Evans et George Sand est redevenu Aurore Dupin. Pourquoi ils ont fait ça ?
Je pense que ça voulait être justement mettre les femmes à l'honneur en montrant qu'à un moment donné elles avaient été forcées dans un type de conduite. Alors c'est plutôt ça part d'un bon sentiment et
oui.
En fait on se demande si ça marche forcément. Moi ce que je pense moins, parce que je me dis que quand une femme comme George Sand, donc, pour la renommer, a pris ce type de pseudonyme, c'est quelque chose qui devient tellement intime, qui fait tellement partie de sa vie, que de la rétrograder, je vais y arriver, entre guillemets, à un nom qui n'était plus tellement le sien, ça n'a vraiment plus de sens. Donc
et alors, vous le dites juste après, vous dites souvent pris dans l'urgence, en puisant dans l'héritage familial, dans des noms de villages d'origine ou des alentours, les pseudonymes rendent à la fois compte d'une libération, d'une catharsis littéraire. Vous parlez des deux plus célèbres Marguerite du XXe siècle, Ursenar et Duras. Vous dites, elles sont restées, effectivement, avec leur prénom de femmes, mais elles se sont débarrassées, finalement, d'autres parties de leur origine.
Oui, absolument, notamment de leur père, enfin voilà, parce que c'est toujours quelque chose d'assez lourd à porter. Enfin, comment est-ce qu'on devient, de toute façon toute la question qui sous-tend le livre, c'est comment est-ce qu'on, à partir d'une vocation, quand on sent qu'on a le désir d'écrire, comment est-ce qu'on y arrive ? Et on y arrive d'autant moins bien, c'est ce que je montre, au 17e, 18e, 19e, 19e
oui.
Étant certainement le siècle le plus misogyne qui soit,
oui.
et encore malgré
oui,
tout au 20e.
Oui, la bascule se fait encore vraiment au 20e.
Voilà, ouais. Voilà.
Avec effectivement plusieurs parcours à compter. Alors Frankenstein, effectivement, qu'on connaît plus, généralement qu'on a plutôt vu au cinéma que lu, peut-être parce qu'on nous disait aux petites filles de ne pas lire Frankenstein. Mary Shelley, alias anonyme, c'est le titre de ce chapitre.
Oui, parce qu'en fait, elle n'a pas pu prendre de nom, enfin, ou elle n'a pas souhaité. enfin, c'est un peu plus compliqué, elle, parce qu'il y a toujours différentes raisons. Pour Marie Shelley, elle était la fille d'un couple assez connu, d'une femme qui avait été féministe et écrivaine, d'un père qui était philosophe, et elle a été la femme de Percy Shelley, qui était à l'époque un grand poète romantique, etc. Donc, dès qu'elle a sorti Frankenstein, je rappelle qu'elle avait 18 ans quand elle a écrit ce truc. C'est absolument complètement inouï, ouais. Enfin, je veux dire, de force, parce que c'est vrai que nous, comme vous le disiez, on a des images, en fait, plus de cinéma. Mais quand même, aller chercher des cadavres qu'on met bout à bout pour créer une créature fantastique, c'est quand même incroyable. Et Percy Shelley a essayé de l'aider à publier son livre. Et en fait, tout le monde a cru que c'était lui. Elle s'en est agacée. Elle a essayé de répondre contre ça. Puis à un moment donné, elle a laissé tomber parce que c'était pas possible. Et enfin, ce greffe, la dernière histoire familiale pour elle, c'est que quand elle est devenue l'épouse de Percy Shelley, le beau-père, donc son beau-père, elle lui a interdit de publier sous le nom de son fils.
Charmant.
Voilà, donc, charmant. Ouais. Ben voilà,
il y a beaucoup d'histoires, effectivement, charmantes, comme ça, tout au long du livre, de ces parcours de femmes, d'écrivains, d'écrivaines. C'est souvent aussi lié au mari ou au fiancé, ou voilà, et souvent, effectivement, c'est eux qui ont la gloire.
Oui, alors je donne l'exemple de Colette, qui est, donc on ne sait peut-être pas que quand elle a publié, les Claudines qu'on connaît, il y en a eu quatre, en fait, ont été publiées sous le nom de son mari, qui avait pour pseudonyme, lui, Willy, et qui était une personnalité parisienne très connue, etc. Il avait une sorte d'atelier d'écriture, lui il n'écrivait jamais rien. Ouais. Donc il avait un staff, on va dire, qui écrivait pour lui, il avait pensé que sa jeune femme pouvait tout à fait s'y mettre, et ben, alors elle a fait un livre, deux livres, jusqu'au quatrième, et à un moment donné, elle a voulu aussi s'émanciper, sortir d'un mariage qui était pesant, difficile.
Oui, ça arrive à plusieurs. Enfin, ça arrive pour Colette, mais pour d'autres aussi, effectivement.
Pour d'autres aussi. Donc, et c'est devenu un problème. Et en même temps, ça pose beaucoup de questions parce que il est évident que lui a eu des idées qu'il a corrigées sur certaines choses. Il appelait ça pimenté. Il voulait toujours pousser ça vers des scènes un peu plus osées, etc. pour l'époque. Donc, quelle est sa part à lui d'innovation ou de doctorialité? Bon, évidemment que c'est elle presque à 97%. Mais ça n'empêche, ça a été une histoire très compliquée avec son fils par la suite.
Enfin. Alors Georges Sand, Aurore Dupin, Flaubert disait d'elle, il fallait la connaître comme je l'ai connue pour savoir tout ce qu'il y a de féminin dans ce grand homme. Vous dites une volonté farouche de se fabriquer un destin, de se réinventer comme un personnage de fiction et gagner ainsi sa postérité. Évidemment, Georges Sand, c'est l'exemple le plus connu, le plus typique aussi.
Oui, et puis alors, on peut s'imaginer cette femme vraiment au 19e qui s'habille en homme. Et pourquoi est-ce qu'elle s'habille en homme? Elle, c'est pas du tout par goût du scandale, c'est parce que ça coûte moins cher d'abord de se promener dans la rue à Paris. Elle a calculé que ça lui coûtait la moitié moins cher que de s'acheter des robes et des colifichets, budget, et tout genre de choses au niveau du budget. Mais par ailleurs, le fait de se promener dans Paris habillée en jeune étudiant, comme elle le dit, ça lui permet de redevenir elle-même le sujet, c'est-à-dire elle n'est plus la femme objet qu'on regarde, qui est admirée, qui se promène. Et encore, se promener, je rappelle qu'à l'époque, c'était pas si évident pour une femme de se promener dans l'espace public seule. On pouvait tout de suite, oui, on avait tout de suite des mauvaises idées sur ce type de femme-là. Donc, récupérer sa propre vision sur le monde, sur les choses, sur les gens, parce qu'elle est habillée en homme, forcément, ça crée une forme d'indépendance et de regard nouveau, en fait.
Alors, il y a les sœurs Bront, sacrée histoire, hein. Oh là là, c'est pas très gay.
Elles meurent tellement jeunes, toutes.
Elles meurent toutes tellement jeunes, et puis il y a d'autres frères et sœurs qui meurent. Enfin bon, c'est vraiment pas sympathique. Et à un moment donné, effectivement, vous relatez des propos d'un poète et éditeur, Robert Sauté, qui répondait à Charlotte Bront en lui disant, écoutez, la littérature ne peut en aucun cas constituer l'occupation première d'une femme, et il est juste qu'il en aille ainsi. C'est à quoi elle avait très poliment répondu, de respecter tous les devoirs de son sexe, si ce n'est que le soir, je dois admettre que je pense, mais je ne dérange jamais personne avec mes réflexions. C'est grandiose.
Oui, on voit vraiment l'humour ou l'ironie enfin, dont elle est capable. Mais c'est vrai que c'est triste, parce que ce sont des femmes. Elle dit aussi à la fin qu'elle aurait voulu qu'on regarde la raison pour leur pseudonyme à toutes les trois, c'est qu'elle aurait voulu qu'on regarde leur livre avec le même regard, avec la même équité. C'est-à-dire, quand on regarde un livre de femme, il y a tout de suite, et ça c'est l'autre à bord, il y a tout de suite des critiques qui tombent et qui sont d'une vraie violence. C'est-à-dire qu'on pense toujours que les femmes ne peuvent pas avoir de génie, elles peuvent à peine bâtir une histoire qui se tienne, etc. Et elle aurait voulu Charlotte, parce que c'est la rare, c'est une des trois qui s'exprime, des sœurs, elle aurait voulu vraiment qu'on soit capable de regarder le travail, le livre, le roman, pour ce qu'il était, et non pas parce qu'il était écrit par une femme. Et c'est un vœu pieux, finalement, parce que c'est pas si simple.
Hein. Effectivement, et souvent, effectivement, on se dit, tiens, c'est rare aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, fort heureusement, mais c'est vrai que quand on prend un livre d'écrivain, voilà, on va pas se dire, c'est un écrivain homme ou c'est un écrivain femme, même si pour certains livres, c'est très marqué, mais pour la plupart, aujourd'hui, c'est même plus une question, et heureusement.
Oui, c'est plus une question, quoique moi je pose la question autrement et je regarde du côté du lectorat, c'est-à-dire on sait depuis toujours, nous les femmes on a appris à regarder les choses de manière universelle, mm-hmm. c'est-à-dire peu importe effectivement si on lit un écrivain ou une écrivaine, je ne sais pas si le contraire est tout à fait vrai, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un grand public d'hommes lecteurs qui lisent des œuvres de femmes, est-ce qu'il n'y a pas toujours aujourd'hui encore, évidemment beaucoup moins qu'avant,
une catégorie de
littérature qui est regardée de cette manière enfin.
Alors, on vous parle aussi des filles du Dr March, vous parlez aussi de G. Destock, qui était notamment, enfin, qui était un grand écrivain et qui était aussi la maîtresse de Maupassant. Et à un moment donné, effectivement, pour Catherine Harris Bradley, Edith Emma Cooper, alias Michael Field, elles étaient deux en un, elles disent « Nous avons beaucoup à dire, mais le monde ne l'acceptera pas de la bouche d'une femme ».
Alors là, c'est un cas très à part. Alors, premièrement, elles ont une sexualité qui ne se met pas trop en avant à l'époque. Elles sont homosexuelles, donc elles vivent ensemble. Et en plus, elles sont tantes et nièces. Donc là, on peut aussi se poser la question du regard familial sur elles. Mais à cette époque-là, la reine Victoria était persuadée que le lesbianisme ou l'homosexualité pour les femmes n'existait pas. Donc si deux femmes vivaient ensemble, ces choses-là ne pouvaient pas exister. Mais quand même, elle s'en méfiait parce que c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on est considéré comme une femme qui écrit ou comme deux femmes qui vivent une histoire d'amour ? Et c'est vrai que très souvent, quand on regarde des œuvres, je pense à Rosa Bonheur récemment, en me disant, elle n'a jamais vraiment voulu dire qu'elle vivait avec son amante, alors qu'elle vivait avec une femme, et on s'imagine bien que c'était le cas. Enfin.
Oui. Alors, il y a beaucoup d'autres, on l'a dit, il y a une quarantaine, on ne peut pas les évoquer toutes. Et il y a Catherine Burdekin, alias Murray Constantine. Et alors là, alors il y en a plusieurs, quand vous citez des livres, je me dis, tiens, celui-là, je ne l'ai pas lu, ou celui-là, j'ai envie de le relire. Mais là, vous avez parlé d'un que je n'ai pas lu, et Svetiska Knight. Et vous l'avez lu, j'imagine.
Alors, je l'ai lu une fois que j'ai trouvé le personnage.
Je me dis que je vais le lire, même si ça a l'air totalement terrifiant.
C'est assez terrifiant. Parce que c'est une dystopie et vraiment cette femme a imaginé à un moment donné, on est en 37 et elle imagine que Hitler va gagner la guerre, que tout va être éradiqué et en plus que Hitler devient un dieu. Donc après la société est divisée avec les dominants, les femmes sont toutes au bas de l'échelle. Évidemment, ils se sont débarrassés de la question juive, on va dire comme ça.
La population privée de son passé comme de son histoire n'a aucun accès aux livres, à l'éducation ou même à l'art. Au sommet de la pyramide dominent les hommes forts, tout en bas les étrangers servent d'esclaves. Quant aux femmes, elles sont réduites à leur fonction reproductrice et parquées comme des animaux dans des camps.
Ça fait envie, hein.
Ça fait envie, mais le livre, a priori, en tout cas, fait envie parce que c'est voilà.
Le livre est incroyable, mais elle, la raison pour laquelle on la connaît pas, c'est qu'à force de disparaître et de se cacher, et on comprend pourquoi, parce que publier un brûlot comme ça dans ces années-là, c'est assez incroyable. Et ben finalement, ça a été difficile. Enfin, c'est quand on se cache, on court le danger de ne plus être reconnu et ne plus être connu du tout.
On va terminer avec Mary Poppins.
Oui.
Ah bah voilà, au moins voilà pour sourire. Mary Poppins, c'est une femme aussi.
Oui, bien sûr. Elle a joué ça autrement. Elle a pris deux initiales.
Oui.
Voilà. Donc, puis elle traverse. Et elle ne voulait vraiment pas qu'on donne ses initiales, qui étaient d'ailleurs fausses. Hein, c'était un nom d'emprunt, un pseudonyme. Elle ne voulait pas être considérée comme une femme parce que elle ne pensait pas qu'elle faisait. Et c'est souvent le cas avec des gens qui écrivent de la fiction pour les enfants. Elle pensait pas qu'elle faisait des contes. Et elle trouvait, par exemple, que Walt Disney avait absolument pas du tout compris son œuvre et que c'était, il y avait rien de mignon, rien de charmant, etc. Que c'était plutôt arrangé du côté des contes et légendes, vous voyez.
Ce qui est surprenant, et vous le dites dans l'épilogue, c'est que J.K. Rowling, elle aussi, elle a pris en fait ses initiales parce qu'au début, elle s'est dit l'histoire de sorcier, tout ça, ça sera un public de jeunes garçons, ce qui ce qu'il faut, entre guillemets, puisqu'effectivement, après, bah, les petites filles et les jeunes filles se sont autant passionnées pour Harry Potter, je parle en connaissance de cause, oui, à la maison, oui, que pour le reste. Mais elle est partie avec J.K.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est même à la demande de son éditeur qui a pensé que c'était beaucoup plus vendeur et que à cette époque-là, parce que ça remonte, hein, aux années...
oui, 90.
90, hein, ouais, c'est ça. Et donc, on n'imaginait pas que des petites filles seraient absolument énamourées dans cette école de sorciers. et on n'imaginait même pas son destin à elle, enfin, qui a enchanté quand même plusieurs générations.
Oui, oui. Ouais, bon, on a commencé l'émission avec Marc Lambroso qui n'imaginait pas le destin de Jean-Jacques Goldman avec, oui, qui il a commencé à travailler. Voilà. On va terminer avec J.K. Rowling, oui, qui elle non plus ne pouvait pas imaginer. Qu'est-ce que ça vous a appris, Catherine Sauva, ces parcours de cette quarantaine d'écrivaines?
Bah, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de la tristesse, en, oui, fait, à parcourir des destins, parce que là, on va vite et forcément, mais il y a des destins tragiques.
Il, hein, y a beaucoup. C'est un des points communs, effectivement, très souvent. Elles meurent jeunes, ou elles ont des morts autour d'elles, ou alors il y a des divorces, il y a des tromperies, enfin,
oui,
c'est pas...
il y a des suicides, enfin bon, c'est pareil, on ne va pas terminer non plus sur cette note-là, mais ce sont des dessins difficiles. Et ce que ça m'a appris, moi, c'est que ce sont quand même des forces, ce sont des femmes qui se sont battues pour leur vocation, pour leur désir d'écriture. C'est pas rien quand même. Hein.
Non, c'est pas rien. Et fort heureusement, et après tout, effectivement, ça aurait été mieux si à l'époque, elles auraient pu sortir sur leur vrai nom. Mais le plus important aussi aujourd'hui, c'est que, ben, voilà, qu'on les connaisse et puis surtout qu'on profite de leurs œuvres. Il y a un prochain livre déjà en préparation, Catherine Sauva?
Oui, alors là, c'est sur l'histoire d'une voyageuse du 19e. Je reste sur les femmes.
Bah, vous avez bien raison. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Sauva. Ils sont, elles, histoire extraordinaire d'écrivaines qui ont choisi des noms d'hommes avec une couverture très chouette. Et c'est aux éditions Flammarion. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par l'ensemble de la rédaction. On se quitte avec cette chanson interprétée par Patrick Bruel la semaine dernière au Dôme de Paris, Les chaises vides. Chanson écrite évidemment à propos du 7 octobre. Chanson que vous devriez pouvoir retrouver sur les plateformes d'écoute d'ici quelques jours. Mais pour l'instant, elle est sur RCJ et uniquement sur RCJ.
On aura beau chercher le pourquoi du comment, la vie bascule sans prévenir, les hommes donnent ce qu'ils ont de pire, et puis on aura beau parler, en parler aux enfants, pour ne pas blesser la mémoire, pouvoir affronter les miroirs, il restera tout ce qu'il y avait autour d'une vie, d'une voix, de tant d'histoires d'amour, toute la douleur de ce jour, sans sursis ni recours, ces silences tellement sourds. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides, celles des écoles, celles des concerts, les chaises des repas de famille, sans parler des anniversaires. Elles nous observent, les chaises vides, elles sont d'un silence exemplaire, même si c'est que du bois aride, nos larmes regardent et on espère. On aura beau mentir, dire que ça va passer, le chagrin glisse et nous devance, sans nous laisser la moindre chance. Et puis, on aura beau maudire ceux qui l'auront volé, l'ivresse qui coulait de leurs hanches, la beauté de leur corps qui danse, il restera ce que l'on dira d'eux, un poème, un combat, pour pas baisser les yeux, le souvenir qu'on leur doit, comme on souffle sur un feu,
pour qu'il ne meure pas. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides?
Le Centre d'art et de culture Acadème et RCJ vous convie à une soirée d'échange et de réflexion. Sommes-nous devenus des juifs du 7 octobre? Avec Anne Sinclair, Valérie Zenati, Stéphane Fraisse et Sébastien Spitzer. Lundi 14 octobre à 20h à l'espace Rachi, Paris 5e. Réservation sur culture-trait-d'union.